les chemins de traverse, la vallée de la Dordogne périgourdine. Une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série des chemins de traverse où je suis heureux de vous accueillir. Je suis à Grolléjac, en Dordogne, entre Gourdon et Sarlat. Grolléjac, où dans un prochain épisode, nous partirons à la découverte de la vallée de la Dordogne périgourdine. Après une petite marche sur les berges, je trouve un endroit idéal pour m'installer au bord de la Dordogne quand j'entends le murmure suivant.
Bonjour, promeneur. Que me vaut donc votre visite et votre arrêt sur mes berges dans ce charmant petit village ?
Répondant à son accueil, je lui explique, ainsi qu'à vous, chers auditeurs, que je réalise un documentaire sonore sur son cours et sa vallée, dans sa partie périgourdine. Précédemment, j'ai réalisé un chemin de traverse sur la Dordogne, le titre en était « La vallée de la Dordogne lotoise ». Nous avions descendu la rivière dans sa partie lotoise, kercinoise. Pour cela, nous étions partis de Beaulieu-sur-Dordogne, là où le cours s'élargit suite à l'entrée dans la plaine, et nous avions terminé notre descente à Grolléjac, en Dordogne. D'où le départ pour cette nouvelle série de cet ancien port, Grolléjac, sur la rive gauche. Curieuse, la rivière poursuit.
Et qu'est-ce qui vous a incité à continuer votre descente ?
J'explique alors qu'après ce premier chemin de traverse sur la Dordogne kercinoise, je souhaitais réaliser une deuxième série d'émissions consacrées à son cours et à sa vallée dans la traversée du département éponyme. Cette nouvelle émission est née à la fois de l'intérêt et attachement que je porte à la Dordogne du fait de mon lieu de vie, mes origines et en tant que membre de la confrérie des Gabariers. Il s'ajoute à ces raisons l'envie, le plaisir de vous faire découvrir, à vous, auditeurs, cette partie de ce cours, du patrimoine de cette vallée et des hommes et femmes y résidant, travaillant et la faisant vivre. Cette découverte, nous allons la réaliser à la fois en partie sur l'eau, à bord d'un gabarot, par la route, en voiture et par les airs, en ULM. Charmé de ce cheminement, Dame Dordogne ajoute.
C'est un beau programme et c'est vrai qu'il y a de quoi faire, voir et à raconter.
Je lui demande s'il lui plairait de nous narrer son histoire. Enchantée de mon intérêt, elle me répond.
Bien sûr, avec grand plaisir. Vous savez que, comme tous les cours d'eau, je suis très bavarde.
Son accord me satisfait. Mais avant qu'elle nous conte son histoire, je vous propose d'aller à la rencontre de Bertrand Boudou, le président de la confrérie des Gabariers. Confrérie avec laquelle nous effectuerons une bonne partie de la descente de la rivière à bord d'un gabarot. Bertrand va nous présenter la confrérie, ses activités et nous parler de son attachement à Dame Dordogne. Cette dernière acquiesce en me disant
« Faites donc et dites-moi quand je pourrai m'exprimer. »
Je suis originaire d'Ouverac dans le Lot. J'habitais donc à côté de la Dordogne, à quelques centaines de mètres. Maintenant, j'ai migré. La vie familiale m'a fait que je suis monté sur le Causse. Ça ne m'empêche pas de ne pas oublier la Dordogne, où j'y vais régulièrement.
Oui, parce que tu es très attaché à la Dordogne. Et puis, en plus, ça remonte aux origines.
Mon père, mon grand-père, on est originaire. Donc le lieu dit qui va bien, il s'appelle la rivière. Hein. Donc on a toujours habité au bord de la Dordogne. On a
la rivière qui est sur Vérac. Hein.
Voilà, la Vérac, oui.
Où, on en parlera tout à l'heure, a été construit le gabarot dont nous parlerons. Donc tu as toujours vécu au bord de la Dordogne, mais on peut vivre au bord de la Dordogne, et puis bon, ben, on est au bord de l'eau, puis c'est tout. Toi, c'est plus que ça, quoi. Il y a une attache, il y a un amour, il y a une passion.
Oui, il y a une attache. Mon grand-père, bon, que je n'ai pas connu énormément, qui est décédé, il était très jeune. Mais bon, qui avait transmis à mon père, qui avait transmis à mon frère, mon grand frère. Donc on a toujours été sur la Dordogne. Bateau, barque, pêche, braconnage, ça se dit pas, mais bon, ça se fait aussi. Hein. Ça a jamais été mauvais pour le poisson. Hein. Voilà, pour revenir dessus, c'est pas les braconniers qui faisaient le plus de mal. Hein.
Oui, et puis à 30 enfants, c'est pas pareil.
C'est pas ça qui... Non, on a toujours été proche de l'eau. Hein. Après, comme on dit, on essaye de l'apprivoiser, on a du mal. Hein. Elle est très, très, très dure à apprivoiser.
Mais pourquoi dur à apprivoiser ?
Qui est très compliqué, qui bouge énormément, qui a des niveaux qui changent constamment. Et les fonds ne sont pas les mêmes partout, ils changent d'une année sur l'autre, suivant les courants, les crues qu'il y a. Donc voilà, c'est une très belle rivière, mais très très dure. Et...
Donc il faut la dompter.
Il faut la dompter et on ne peut pas dire qu'on la connaît. On ne la connaît pas. Et comme je dis, elle change régulièrement. Donc c'est à à connaître est très très compliqué. Ouais. On se dit, voilà, c'est non, elle est calme et tout ça. Et c'est loin de là, il y a beaucoup de remous, des courants, très peu de fond par endroit, je vous dis. Et 2 mètres après, vous avez un trou, vous avez 5-6 mètres de fond. Et il y en a beaucoup qui sont piégés là-dessus, malheureusement.
Donc il faut rester modeste, savoir qu'elle change.
Voilà, voilà, c'est ça. Non, il faut rester à notre place.
Il faut dire, il y a la Dordogne, il y a Mère Nature, Mère Dordogne, et puis...
Il faut l'écouter, ça se regarde, ça se lit. C'est comme un livre, la Dordogne ou n'importe quelle rivière. C'est comme un livre, ça se lit. Il faut regarder comment elle travaille, les courants où ils sont, les arbres, un rocher qui est juste immergé, qui ne se voit pas, qui est à fleur, et qui vous fait chavirer, si vous n'avez pas vu.
Depuis ta plus tendre enfance, vous avez toujours eu une attirance, des activités avec la Dordogne.
Ah oui, nous toujours. Mais après, c'était notre colonie de vacances. Mes parents étaient agriculteurs. Si on n'était pas à la ferme, en train de travailler, on était sur la Dordogne. En barque, l'été pour aller se baigner. Si c'était pas l'un, c'était l'autre. T'es tout le temps dessus. On venait pour manger le midi et le soir. On était sur l'eau, voilà, on n'était pas très loin. Mais bon, les anciens avaient confiance, ou alors, je sais pas, parce qu'on la connaissait, mon père nous l'avait apprise comme il faut.
Ou ils avaient conscience des dangers.
Voilà, ouais. Après, il y a eu des fois où c'était le bon Dieu était avec nous. On est passé près. Hein. Je vais pas vous le cacher.
Vous n'avez pas tout raconté.
Non. Après, donc pas la peur. C'est peut-être ce qui nous a sauvés. On aurait paniqué, on aurait été une catastrophe. On n'a pas paniqué. On s'en est toujours bien sorti. Oui. On partait très rarement tout seul. Il y avait mon frère qui nous suivait. On partait à 2 ou 3. Donc on avait toujours un qui surveillait l'autre.
Il y a une petite anecdote justement par rapport à ces souvenirs d'enfance, sans aller sur la plus catastrophique, ça peut être la plus comique.
Ah non, il
n'y
a pas une catastrophique parce que tout le monde est là encore, on est tous vivants. Donc. J'étais gamino, j'avais une dizaine d'années, mais ouais, j'étais en train d'apprendre à nager. Et à un moment, on était tous les quatre en train de faire les couillons au bord de l'eau. Et au bout d'un moment, apprenez-moi à nager, donc je pars tranquille à la bras. Et il y a mon frère qui me dit « t'as plus pied, fais attention ». Et sur le coup, j'ai paniqué, donc voilà l'erreur que j'ai faite. Ouais. Et c'est mon autre frère, mon grand frère, qui me sortait de route, je finissais, je coulais, et bon, voilà. Il n'aurait pas été là, je ne serais plus là pour vous parler.
D'accord, voilà. oui, donc...
Après, des anecdotes, il y en a eu plein d'autres, et au moment des crues, parce que c'est là où c'est le... Alors pour moi, maintenant, le plus intéressant, c'est quand il y a l'eau, quand l'eau est marchande.
Oui, parce qu'elle est marchande, donc voilà. Ça porte.
C'est plus intéressant. Après, bien plus dangereux aussi, du coup. Ouais. Je vous dis, le bon Dieu ne veut pas de nous encore là-haut.
Bertrand Boudou. Un gars du pays, comme on dit, avec son béret posé avec soin sur la tête, une barbe bien taillée et son accent bien de chez nous. C'est à Saint-Céré, chez moi, que nous nous sommes rencontrés par un bel après-midi d'automne. Si nous n'étions pas au bord de son terrain de jeu, de par la magie des cours d'eau, la Dordogne n'était pas loin. En se laissant porter par le ruisseau Le Narbonnais, passant en bas de chez moi, qui rejoint un peu plus bas la Bave, descendue du Ségala, nous arrivons à la Dordogne, un peu avant Gintrac, juste avant Carénac. Bertrand, en plus de son amour pour la rivière, est le président d'une association, la Confrérie des Gabariers.
Alors ça revient depuis 1994, donc c'était au moment où il y a eu le film La Rivière Espérance. Mmh. Il y a une anecdote qui s'est faite avec, à l'époque, la régisseuse, c'était José Darian, qui a dit, à l'époque c'était des vrais hommes. Et elle a dit, maintenant vous êtes que des bips. À mon père, à mon cousin, à Max Maiola, donc ancien charpentier de marine. Ça les a piqués, pas mal, hein, et donc ils ont dit, on va leur montrer de quoi on est capable. Max a refait un bateau identique, Elina, et en 2000, on a décidé de descendre à la Dordogne, dans le cadre du Téléthon. Et donc, en 1998, on a fait une première descente, on a vu que ça marchait pas trop mal, on se débrouillait bien. Et en 2000, on a créé l'association à Confrérie des Gabariers, où j'ai adhéré donc immédiatement, et où on a fait une intégrale, donc on a fait Argentat-Bordeaux, tout à la rame, 385 km, dans le cadre toujours du Téléthon.
Argentat-Bordeaux, tout ouais. À la rame. Bon, voilà. Avec des passages où c'était grûté, parce que bon...
Passage avec des grutages. Malheureusement, maintenant, la Dordogne n'est plus navigable comme elle était à l'époque. On pouvait la faire sans... Il n'y avait pas tous ces barrages, il n'y avait pas toutes ces digues, toutes ces retenues. C'était... Donc, mais là, bon, il y a les grutages. Ça, après, bon, c'est comme ça. Hein. Après, voilà, ils ont essayé de la canaliser pour arranger tout le monde, pour l'irrigation, pour essayer d'éviter les crues. On a fait multiples descentes après, donc avec d'autres bateaux, donc des plus petits, des gabarots. On a fait une dizaine de descentes. Allez, chapeau. Et depuis donc 2021, on m'a nommé président de la Confrérie des Gabariers, qui était très très bien entouré au niveau de la secrétaire, trésorier, et même des coups de main des autres à côté qui ont été présidents, qui m'ont donné des coups de main. Et depuis, je suis encore président de la Confrérie des Gabariers.
Voilà. Oui, puis content de l'être.
Content de l'être, oui. Je m'en suis bien occupé, je pense qu'on a bien géré, on a fait des beaux trucs, et puis en espérant qu'il y en ait plein d'autres.
Oui, voilà, parce qu'il y a eu la descente en 2024.
2024, la descente, donc l'Odyssée d'Ornonia, qu'on a fait, qui a été une très très belle réussite. Nous, qui nous a permis, parce que donc depuis pratiquement une vingtaine d'années, on n'avait pas fait de descente. Manque de moyens, pas de bateau. On n'avait plus de bateau. Il y a Max Maiola qui nous avait refait un bateau. Donc nous, ça nous a permis de naviguer. Et c'est bien une confrérie, mais bon, si on n'a pas de bateau...
C'est un peu dommage.
C'est compliqué.
Son objectif, c'est de...
Et un bateau, ça coûte très cher. C'est du boulot à faire. On a vu ça l'été dernier. C'était très, très compliqué à faire. Surtout qu'on n'est pas du métier.
Ah, c'est un métier. Hein,
c'est un métier. Non, voilà, il faut rien. Un charpentier de marine, c'est pas donné à tout le monde. Et je le remercie énormément pour tout ce qu'il a fait pour la confrérie, Max. Il nous a fait beaucoup de bateaux. Et ça a été vraiment...
Des membres fondateurs de...
Membre fondateur. Et c'est le premier président de la confrérie. Grâce à lui, qui nous a permis de refaire naviguer des bateaux traditionnels, de re-expliquer, de remontrer aux gens ce qui se passait il n'y a pas très très longtemps. Et le dernier bateau qui a descendu à Dordogne, le dernier gabarre qui a descendu, c'est 1936. Donc ça fait 90 ans. C'est vieux, mais pas vieux en même temps.
C'est à la fois lointain et très proche.
Voilà, c'est
sur l'échelle du temps, c'est rien. Après, c'est sûr que par rapport au changement qu'il y a eu, c'est phénoménal.
C'est énorme, et avec l'arrivée du train et tout ça, voilà, c'est ce qui a tué les bateaux. Hein. Les bateaux se sont tirés une balle dans le pied eux-mêmes, hein, parce que c'était les premiers à livrer les cailloux pour faire les ponts pour le train. Donc, mais ils ne pensaient pas à cet impact derrière. Et eux, ils se sont dit, ça fait du boulot, parce que l'été, ils ne travaillaient pas beaucoup. Ils ne pensaient pas à ces retombées derrière.
Les conséquences.
Voilà, les conséquences. Et bon. Ça les a tués. Bon.
De toute façon, ça se serait fait. Par d'autres moyens, mais ça se serait fait, je pense. Donc.
Ça aurait été pas le train, ça aurait été maintenant les camions.
L'histoire des gabariers, nous y reviendrons au fil de ce chemin de traverse avec Bertrand et d'autres intervenants au fil de notre descente. Avant de laisser la parole à Dame Dordogne, revenons à la descente d'Ordonia.
Il y a eu l'Odyssée d'Ordonia qui nous a relancé en 2024 parce qu'on a fait une très très belle aventure sur une semaine.
Oui, parce que pour rappeler, ça partait d'Argenta et ça allait
jusqu'à Libourne. On a refait, on va dire, ce qui se faisait à l'époque, Argenta-Libourne. Une très très belle aventure avec de bons moments.
Il y avait des moments un peu d'angoisse et puis des moments de rigolade.
Ouais, beaucoup de rigolade. Après, le seul moment d'angoisse qu'on a eu, c'est que c'est le manque d'eau. Et malheureusement, on était dépendant de ça. On sait que s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas descendre. Ouais.
Et à la limite, ça peut être même, je ne dirais pas plus dangereux, mais ça peut créer des problèmes que...
C'est abîmer le bateau. La Dordogne, j'ai dit qu'elle est dangereuse, qu'elle est basse, justement. La Dordogne fait, mettons, 50 mètres de large. C'est les basses, vous avez un couloir de 10 mètres de large pour passer.
Oui.
Il y a des remous, il y a des rochers qu'on ne voit pas, qui sont à fleurs, et c'est là où vous êtes dangereux. La Dordogne, à un niveau correct, un bon niveau, à la place de faire 10 mètres de large, sur ces 50 mètres, elle va faire 40 mètres de large. Et vous avez beaucoup plus d'endroits pour passer, beaucoup plus d'amplitude, vous pouvez naviguer bien plus simplement. Donc c'est pour ça. Alors je sais que pour tout ce qui est tourisme, il ne faut pas trop d'eau. S'ils ont trop d'eau, ils n'ont pas le droit de faire descendre les canoës parce qu'ils considèrent que c'est trop dangereux. Mais la Dordogne est moins dangereuse pour moi en état haute qu'en plein été.
Oui, puis les rochers affleurent moins.
Un rocher, un arbre, n'importe quoi. Et ça va vite. Hein. Vous accrochez un bateau dessous, il se retourne. La personne ne sait où se palager ou se cogne. Et on le voit malheureusement tous les ans, on déplore des décès. Hein. Alors, l'hiver, bon, il n'y a pas d'essai qui ne descendent pas en canoë, c'est sûr. Mais l'eau étant un peu plus haute, il y aurait l'eau ferait 50, 80 cent, ou un mètre de plus en hauteur, mais il y aurait beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là.
Je vais pas mais dire qui après, s'entend, hein, qui s'entend.
S'ils ont trop de débit, ils n'ont pas le droit de lâcher les canoës. Donc, je le comprends aussi. Une personne qui n'a jamais fait de bateau
mais c'est
de
ça.
Sa vie, qui monte sur un canoë pour 2 heures, il ne va pas prendre à naviguer en 2 heures, c'est pas possible.
Et puis, on le verra au fil de ces chemins de traverse, quand on voit le monde qui a l'été... C'est une autoroute.
C'est une autoroute, la Dordogne. Ce n'est pas les mêmes marchandises qui descendent, mais c'est une autoroute, mais nous aussi.
C'est incroyable.
C'est vraiment, oui. Pas pour les mêmes choses, mais elle a encore de l'importance, et ça sert énormément.
Avant de poursuivre notre discussion avec le président de la confrérie des gabariers et de descendre la rivière, nous laissons à la fois l'actrice et le décor principal de ce documentaire nous conter son histoire.
Je vais donc vous conter mon histoire, mon parcours, ma vie. Je jaillis au cœur des monts d'Or, parmi les gentianes, au plus haut sommet des monts d'Auvergne, pour un parcours à travers des terrains et paysages variés. Itinéraire au cours duquel des ruisseaux, des rivières vont venir mêler leurs eaux aux miennes, pour terminer ma course, notre course, dans l'océan Atlantique, après avoir conflué avec la Garonne. Une descente longue de 475 km. Elle a comme décor les reliefs des Monts d'Or, du Sancy, de l'Artense, de la Xaintrie, des Causses Lautois, du Périgord, du Bergeracois, du Libournais, du Médoc et du Blayais.
C'était les chemins de traverse, la vallée de la Dordogne périgourdine. Suite de cette aventure, lors du prochain épisode, Au revoir et à très bientôt.